Esprit.
Entendre.
Esprit.
Comprendre.
Revue Esprit. Revue Esprit. Entendre le monde qui vient.
Merci de votre présence. Vous êtes nombreux à vous être inscrits à cette discussion que la revue Esprit organise à l'occasion de la publication de son numéro de janvier-février 2023, Tous anti-modernes. Un dossier est coordonné par Michael Chassel qui nous fait l'amitié de sa présence. Et je vous propose de présenter rapidement ce dossier. Je passerai ensuite la parole à Michael Chassel pour qu'il présente son article à lui. Et nous aurons ensuite une discussion avec Camille Riquet dans un premier temps. Vous avez l'occasion dans la petite fenêtre de discussion de poser des questions que nous allons nous essaierons d'y répondre dans un troisième temps. Alors ce dossier Tous anti-modernes pose une question que on peut formuler ainsi: pouvons-nous encore être modernes à l'heure en particulier du réchauffement climatique. Alors peut-être une petite définition pour commencer. La modernité est cette époque de l'histoire que l'on peut faire remonter au début du XVIIe siècle, qui se conçoit en rupture avec le passé et qui se caractérise par une certaine confiance dans l'avenir, avenir qui se dessine comme un progrès de la liberté et de la raison. Or, il semblerait que nous soyons entrés dans ce qu'on pourrait appeler un nouvel âge de la modernité, où la perspective du progrès a laissé la place à l'imminence de la catastrophe. Alors, on peut retenir deux indices de cette inflexion. D'une part, le philosophe allemand Jürgen Habermas, qui a toujours défendu la modernité comme permettant la délibération rationnelle, vient de faire part dans un petit opuscule qui sort aux éditions de chez Gallimard, ces jours-ci, je crois, vient de faire part de son inquiétude face aux menaces que les réseaux sociaux font peser sur l'espace public démocratique. Un deuxième indice, Bruno Latour, récemment disparu, propose de faire commencer l'Anthropocène, cette ère géologique où l'humanité a une influence sur le climat, en 1610, et donc semble identifier l'Anthropocène avec l'époque moderne, et nous met face à cette alternative: soit nous restons modernes et nous courons à la catastrophe, soit nous devenons terrestres. D'où cette question: pouvons-nous encore être modernes, c'est-à-dire avons-nous toujours les moyens d'être moderne à l'heure du réchauffement climatique et autres dérèglements écologiques qui définissent l'Anthropocène. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais le dossier se demande ce qu'il reste du progrès, qui est central à la fois pour la gauche socialiste depuis la Révolution française et plus largement pour la philosophie des Lumières. Il interroge également la possibilité pour le projet moderne de rester universaliste, en intégrant à la fois les traditions anciennes et les cultures étrangères. Il revient sur l'histoire du féminisme, qui devient critique de la modernité dans sa tendance contemporaine écoféministe. Il fait état d'un certain épuisement de la modernité littéraire et plus largement culturelle, en se demandant aussi les ressources qui permettent de le remettre au goût du jour. Le dossier cherche donc, dans plusieurs voies et avec différentes voies, à séparer le bon grain de l'ivraie dans notre modernité. C'est dans ce contexte que Michael Chassel, je vous présente rapidement, vous êtes professeur de philosophie à l'École Polytechnique, vous avez donc dirigé ce dossier.
Co-dirigé.
Je mentionne quelques ouvrages qui me semblent important et relié à la thématique de ce dossier. D'abord, Kant et l'équivoque du monde, aux éditions du CNRS en 2008, qui viennent d'être rééditées en poche. Après la fin du monde, critique de la raison apocalyptique, au Seuil en 2012. et un volume collectif sur modernité et sécularisation, également aux éditions du CNRS en 2007. Donc, dans votre article, vous vous intéressez aux critiques contemporaines de la modernité qui remettent en cause son ontologie naturaliste, une séparation stricte entre la nature et la culture. Ontologie qui est jugée responsable de la catastrophe écologique. Et ces critiques vont chercher d'autres ontologies prémodernes pour lesquelles humains et non-humains partagent une même habitation commune. Alors face à ces critiques, vous opposez à la clôture de la nature l'ouverture du monde, celle-ci étant définie comme un horizon de possible. Alors, ma question serait la suivante. Pourquoi ce principe d'inachèvement du monde vous semble nécessaire à la critique du temps présent? Est-ce qu'il est nécessaire seulement à la critique ou peut-être aussi à l'action collective pour répondre aux défis du temps présent? En somme, pourquoi vous définiriez-vous encore moderne?
Merci pour cette question, cette invitation. Bonjour à tous et à toutes. Alors effectivement, je vais répondre à votre question et présenter un peu ce que j'ai essayé de dire dans cet article. Mais avant cela, revenir sur le titre de ce dossier et sur le sens qu'il a. Tous anti-modernes avec un point d'interrogation, comme il ne s'entend pas, je le précise. C'était au fond un constat que nous avions vis-à-vis de la modernité et de son hégémonie éventuelle, changé aussi d'âge. C'est comme si nous vivions aujourd'hui un nouvel âge de la modernité. Pour le dire très rapidement, on a adressé vis-à-vis de la philosophie politique, la théorie politique ou la critique sociale, a adressé à la modernité deux types de reproches jusqu'à aujourd'hui. En particulier à la fin du XXe siècle, d'une part celui du mensonge, c'est-à-dire le fait que sous les attraits de l'humanisme, puis des Lumières, puis du concept de progrès, la modernité aurait justifié un usage de la raison qui est un usage purement instrumental, fonctionnel, technique, qui aurait permis, ou en tout cas facilité, les crimes de masse du XXe siècle. C'est comme si la modernité, en fait, était ou avait sa vérité, obtenait sa vérité en quelque sorte dans ce qui semble la nier, c'est-à-dire la guerre, le génocide, la violence. Ça, c'est la critique, je dirais, qui va de l'école de Francfort, peut-être avec des Roland Heideggeriens aussi, jusqu'à au postmodernisme ou la postmodernité telle qu'on la retrouve chez Lyotard. Et puis, il y avait une deuxième position qui était la position, justement, vous l'avez citée, d'Habermas, consistant à dire que, en réalité, les promesses de la modernité ou des Lumières, hein, Habermas ayant une tendance à identifier les deux, ces promesses étaient non tenues. Donc c'est l'idée qu'au fond, nous n'avons jamais été encore vraiment modernes et qu'il s'agirait de réaliser ce qui, dans la modernité, en termes d'émancipation, de conception de la raison accordée à la liberté, n'avait pas été exploité, soit par le capital, soit par les États dans leur caractère autoritaire. Autrement dit, la modernité, c'est pour demain. Alors ces deux oppositions se sont longtemps opposées, évidemment. Ces deux critiques de la modernité, l'une positive, l'autre négative. Il me semblait, il nous a semblé, en réfléchissant à la question, qu'on avait un peu changé d'âge, et effectivement la position ou les évolutions d'Habermas ou de Latour à l'autre bout du prisme sont révélatrices. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans une certaine critique, je vais venir là à mon article, la critique que j'ai appelée ontologique de la modernité, celle qui se fonde plutôt sur la crise écologique, eh bien, la question n'est plus tant de savoir si nous n'avons pas été modernes, que nous l'ayons été ou pas, c'est plutôt partir du présupposé que nous le sommes et que nous le sommes beaucoup trop. C'est-à-dire que la modernité aurait, en quelque sorte, épuiser son sens dans la prédation de la Terre telle qu'elle apparaît aujourd'hui dans nos yeux, dans nos corps, devant nos yeux et dans nos corps au moment du réchauffement climatique ou dans la pollution des sols. Donc c'est tout anti-moderne, c'était au fond l'idée que même à gauche, pour le dire plus clairement, et dans la critique radicale du système de prédation de la nature tel qu'il est nommé aujourd'hui, même à gauche, au fond la modernité apparaît aujourd'hui comme le syntagme, le symbole de ce qui, en quelque sorte, nous a placés dans l'impasse par rapport même à la perpétuation de l'humanité ou de la vie. Alors, il m'a semblé intéressant de voir qu'aujourd'hui, la question n'était plus tellement de savoir s'il y avait des promesses non tenues de la modernité, comment réinvestir la modernité positivement, que de prendre position par rapport à cette conception de la modernité comme d'une hégémonie, en quelque sorte, qui se serait emparée de nous. Et j'ai vu un signal de cette évolution de la critique sociale, celle qui est essentiellement, mais pas exclusivement, de tendance, disons, de finalité écologique, dans le fait que lorsqu'on présente aujourd'hui des noms propres en guise, je dirais, de responsabilité collective, de responsabilité individuelle à notre malheur collectif, le plus souvent, dans les discours critiques, on était passé d'Adam Smith à Descartes, ou de Ricardo à Newton. C'est-à-dire que, au fond, la modernité est perçue et comprise de plus en plus souvent comme une ontologie. Une ontologie, c'est-à-dire une manière de distinguer les êtres entre ceux qui sont sacrés et ceux qui sont profanes, entre les humains et les non-humains, entre le vivant et la matière. Une manière naturaliste de concevoir cette ontologie moderne. C'est en particulier ce qu'on trouve sous la plume de Descola, mais aussi de Latour et de beaucoup d'autres. C'est-à-dire que ce à quoi nous aurions affaire aujourd'hui, c'est au triomphe morbide, si je puis dire, d'une certaine manière de concevoir le monde. Parce que ontologie, c'est le terme qu'emploie Descola, mais en fait c'est plutôt cosmologie, c'est une manière de concevoir notre rapport avec l'extériorité, avec les autres et avec les non-humains qu'il faudra remettre en cause. Alors, je dis les choses là trop rapidement, on aura l'occasion d'y revenir, mais ce qui m'a intéressé, peut-être aussi un peu inquiété, c'était cette tentative de penser le politique, non plus uniquement à l'aide des armes que la critique moderne nous a confiées, en particulier du côté soit de la critique de la puissance étatique, donc l'aspect juridique de la modernité, ou alors la critique du capital, la dimension économique. Aujourd'hui, on a un petit peu un sentiment, dans certains discours d'obédience, je répète, écologiste, on a un sentiment d'une généralisation. Au fond, nous serions victimes, en quelque sorte, de notre manière de penser. Et notre manière de penser naturaliste, séparant l'homme de la nature, pour le dire vite, cette manière de penser, évidemment, se réaliserait dans des actions, dans des pratiques qui sont celles de la dévastation de la nature, de sa prédation, de sa surexploitation. Alors, j'ai voulu, dans cet article, essayer de rendre compte à la fois de ce qui va être positif dans ce tournant ontologique des critiques de la modernité, de ce qui me paraissait discutable. Alors, pour le dire d'un mot, ce qui est positif, qui en tout cas, de toute façon, quelle que soit la vie qu'on a, marque un tournant, je dirais, y compris générationnel, parce que c'est souvent dans la jeune génération qu'on trouve cette assimilation de la modernité ou du naturalisme scientifique à nos maux actuels. C'est plutôt les jeunes qui ont déserté le champ de la modernité, ce qui évidemment est un peu problématique pour une notion qui se réclame de son éternelle jeunesse. On parlera pas de Peggy tout à l'heure, mais la modernité, c'est ce qui est neuf, c'est ce qui prétend à la nouveauté, c'est ce qui prétend à la rupture. Et si la génération ou les générations qui sont les plus à même d'assumer cette rupture ne le veulent plus, pour la modernité, c'est un procès qui est évidemment plus radical que ceux qui ont précédé. Et j'en veux un signe, justement, dans l'un des mots d'ordre, qui est celui, je crois, de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ou l'été, du moins, qui a été repris, à savoir « Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend ». Autrement dit, c'est cette idée qu'il faut reconstruire la géographie du politique en cessant de considérer l'être humain comme un spectateur, qui aurait donc aussi vocation éventuellement à défendre son environnement, mais le considérer comme partie de la nature, comme élément d'un cosmos, en quelque sorte. Et évidemment, les hypothèses de l'anthropocène, l'hypothèse selon laquelle nous vivons non pas tellement sur une planète qui serait un astre matériel, mais dans Gaïa, hein, comme le dit Latour, c'est-à-dire nous serions partie prenante d'un être vivant sur lequel nous agissons, pour le pire d'ailleurs, sur lequel l'humanité aurait agi pour le pire. Cette idée-là est une idée qui évidemment entre totalement en opposition avec l'ontologie moderne, c'est-à-dire avec cette idée ou cette conviction que c'est finalement la position de spectateur de l'homme, sa capacité à avoir une distance réflexive avec son environnement, sa capacité à agir aussi sur lui, sur la nature, qui habilite sa liberté, en quelque sorte. Alors je me suis un peu interrogé sur ce que j'ai appelé la crise de l'infini, c'est-à-dire qu'au fond, l'idée, et tout à fait, c'est pas une idée pour le coup, c'est un constat douloureux, qu'on ne peut pas faire peser sur des ressources finies, des désirs infinis. Ce constat, au fond, selon lequel, alors précisément, on ne peut plus dire tellement seulement le capital ou la technostructure ou l'avidité des hommes, mais en réalité, une certaine manière de voir le monde nous aurait amené aussi à nous en faire des maîtres et possesseurs. Quand je disais que Descartes avait remplacé Adam Smith ou Ricardo ou Hayek dans le champ de nos principes critiques, c'est généralement à l'occasion de la citation de la phrase de Descartes, hein, « Il faut, l'humanité doit se rendre comme, bon, on oublie le comme en général, maître et possesseur de la nature ». Et au fond, l'idée est simple, c'est que l'humanité s'est tellement rendue maîtresse et possédante de la nature que finalement, il y a une sorte d'inversion, si je puis dire, c'est-à-dire que à force d'avoir domestiqué la nature, mécanisé nos rapports au vivant, utilisé nos capacités de transformation pour notre propre bienfait, eh bien, il y aurait eu un retournement dialectique que, selon lequel, c'est l'hypothèse de l'anthropocène, il y aurait une sorte de vengeance, en quelque sorte, de cette nature. Par rapport à nos propres tentatives pour la domestiquer. Donc c'est de cette situation que je partais, et puis pour en venir en montrant qu'il y avait là quelque chose de non seulement d'intéressant, mais de toute façon de réel, au sens où le sens de l'appartenance au monde, de l'habitation du monde sont désormais prédominants dans une grande partie de la critique politique, sociale, ou en tout cas de la critique écologique, au détriment de la position du spectateur, encore une fois, ou de celui qui peut prendre l'être humain une sorte de distance vis-à-vis de la nature. Alors j'ai voulu réhabiliter tout de même, effectivement, ce concept de monde. Alors là, c'est peut-être des choses qui, je ne sais pas combien de temps il me reste, pas énormément, mais c'est peut-être des choses que je vais quand même essayer de développer un tout petit peu. Parce que la critique aujourd'hui se fait donc au nom de ce que serait le naturalisme moderne. Et la tentation, enfin la tendance d'ailleurs, ne la qualifions pas d'emblée comme tentation, c'est d'aller chercher dans des rapports au monde de type prémoderne, je pense en particulier à l'animisme, on trouve ça très fortement présent chez Descola par exemple, des alternatives. C'est-à-dire que l'anthropologie joue un rôle très important dans cette reconfiguration du discours critique, enfin du discours écologique. L'anthropologie a changé en même temps de sens, c'est-à-dire que chez Lévi-Strauss, l'étude de rapport au monde adverse à ceux de la pensée domestiquée avait pour fonction, je crois, de manière encore assez moderne, de faire paraître une altérité. Au fond, la manière dont les sociétés occidentales constituent ou entretiennent un rapport au réel, eh bien, on peut la faire en quelque sorte varier en rappelant des structures de la pensée sauvage, par exemple, ou des rapports aux vivants qui sont alternatifs. Et donc, Lévi-Strauss a parlé évidemment du totémisme, un peu de l'animisme, mais sur un mode qui est, je répète, assez moderne, c'est-à-dire un peu sur un mode à la Montesquieu, ou sur un mode dans les lettres persanes. C'est-à-dire on fait varier le point de vue, on montre qu'au fond, il n'y a pas de validité, de légitimité à la prétention de l'Occident, pour le dire vite, ou de la raison occidentale à être totalisante. Bon. Aujourd'hui, ce qui était autrefois une altérité est présenté dans certains discours, ceux que j'ai évoqués, comme une alternative. C'est-à-dire qu'il faudrait reconfigurer nos manières de penser, nos ontologies, nos vies aussi, à partir, par exemple, d'une réhabilitation de l'animisme. Ça aussi, c'est très présent chez Descola et chez Latour, d'ailleurs. C'est-à-dire, et là on retrouve cette phrase, ce n'est pas nous qui défendons la nature, nous sommes la nature qui se défend, c'est-à-dire nous sommes des vivants dans un milieu avec lequel nous interagissons et par rapport auquel nous n'avons pas, au fond, de légitimité à nous présenter comme alternatif, en quelque sorte, ou autre que ce milieu. Alors, la manière dont on réinvestit les questions d'animisme, ou la thématique de l'animisme, hein, c'est-à-dire cette ontologie non moderne, justement, qui ne sépare pas les vivants et les non-vivants, qui met des âmes, ou qui place des âmes dans des lieux matériels, y compris des plantes, des animaux, elle est intéressante parce que elle permet aussi d'expliquer déjà un certain nombre de luttes sociales, politiques, particulièrement par exemple en Amérique du Sud, où c'est au nom des droits de la nature, des droits de la terre, des droits de Gaïa, qu'un certain nombre de revendications sont portées. Je cite dans l'article une lutte sociale qui a opposé des Indiens de Bolivie à l'État bolivien qui voulait transformer ou accaparer leur forêt. Et c'est au nom du principe dit de Pachamama, c'est-à-dire de l'idée de l'appartenance à un tout, à Gaïa, qu'au fond, les êtres humains deviennent en quelque sorte les représentants de la terre plutôt que ses propriétaires. Alors, cette manière, l'animisme se retrouve aussi, pour peut-être les choses, prendre les choses un peu plus concrètes, l'animisme se retrouve aussi dans la portée politique aujourd'hui et légitimement assignée, par exemple, au problème de l'alimentation. Le végétarisme, le rapport aux animaux, non, ce n'est pas seulement la cruauté animale, la cruauté faite aux animaux ou la violence faite aux animaux, c'est aussi, et plus profondément, je crois, une manière de se rapporter au vivant, qui soit une manière moins anthropocentrée, qui soit une manière, de politiser ce qui, dans l'espace moderne public, l'espace public moderne, n'était pas considéré comme politique, à savoir précisément la gestion des animaux pour cet exemple de l'alimentation. Donc dans les jeunes générations en particulier, parce que dans les jeunes, hein, je ne vais pas faire de pensée générationnelle, eh bien c'est un problème politique de savoir ce que l'on mange, comment on mange, comment on traite les autres au sens cette fois-ci générique du terme et pas seulement humain. Donc c'est aussi l'entrée en crise du concept de justice tel que les modernes tentaient de l'élaborer à partir du contrat, c'est-à-dire au fond la question de justice. Pour les modernes, ne se poserait que pour des êtres libres et au fond dans l'aménagement de la société entre des humains et pas au niveau, je dirais, des rapports qui se placent entre les vivants. Alors, cette reconfiguration du politique, elle a lieu, enfin du discours critique sur la politique, elle a lieu, elle a pour bénéfice, me semble-t-il, de porter à la visibilité ce que la conception de l'espace public, alors à la Habermas, ancienne manière, puisqu'on peut dire un peu. Revenu dessus, mais ce que la conception de l'espace public moderne laissait dans l'invisibilité, donc bon, effectivement, aussi bien, d'ailleurs pas seulement les animaux, les plantes et le vivant, mais aussi à certains égards les femmes, puisque précisément on ne se portait pas sur la question de savoir si le citoyen avait un genre ou pas, les orientations sexuelles, etc. Cela permet de participer de la dynamique démocratique, finalement, qui consiste à accéder ou faire accéder dans l'espace public des êtres qui jusque-là y étaient, en étaient exclus. Alors là où ma critique de cette critique, si je puis dire, c'est la question de savoir justement si on peut réduire la modernité à cette ontologie naturaliste et donc l'espace public au fond moderne tel que dans le cadre de la démocratie représentative ou participative, d'ailleurs, on a essayé de le penser, si c'est au fond, si c'est la faute à Descartes, comme c'était autrefois la faute à Rousseau, ou la faute à Voltaire. Alors évidemment, on ne peut pas répondre à cette question en quelques minutes, et même pas en quelques pages, mais on peut donner des indications. D'abord, il y a deux manières d'y répondre. La première que je laisse de côté, c'est de dire qu'après tout, Descartes n'était pas le bad boy que l'on cherche à nous convaincre qu'il serait en quelque sorte le héros de cette modernité insensible, au sens littéral du terme d'ailleurs, insensible à la... Et là, Camille en parlera mieux que moi, mais insensible au réel, vivant, les animaux-machines, etc. Bon, mais ça, je laisse de côté. La deuxième aspect, c'est de savoir si, en reconfigurant uniquement notre rapport au réel sur le mode de l'habitation, de l'appartenance, serait-ce à Gaïa ou à une terre plus ou moins bienveillante, et que nous aurions en quelque sorte profanée, eh bien on ne perd pas quelque chose de la modernité, c'est ce que j'ai appelé ici le monde. Alors pour le dire vite, ça veut dire que la modernité, ce n'est pas justement le naturalisme en réalité, ou plus exactement la modernité invente, en même temps que son naturalisme, qui est réel et qui correspond au fait que la modernité naît, NAIT, avec la science moderne, c'est-à-dire la physique mathématique, c'est-à-dire le concept de nature au sens de ensemble de phénomènes matériels régis par des lois. Donc, la modernité invente un antidote à son propre naturalisme, ou plusieurs antidotes en vérité, mais j'ai centré sur le monde parce que j'ai voulu rester au niveau des représentations du réel que la critique politique nous force aujourd'hui, enfin nous incite plutôt à adopter. Alors le monde, c'est pas la nature, justement. Et même, bon, quand on regarde un peu de près la tour, il est obligé parfois de reconnaître, c'est-à-dire le monde, la nature, c'est plutôt ce qui regarde du côté du sol, effectivement, le monde, c'est ce qui ouvre, c'est l'horizon. Et la modernité se caractérise quand même fondamentalement par l'idée que le réel n'est pas seulement le réel objectivé de la nature, le réel scientifique, c'est le réel institué. C'est le réel instauré, c'est-à-dire ce qui me fait, ce que je trouve parfois dans certaines critiques écologiques de la modernité un peu massive, au nom de Gaïa par exemple, y compris chez Latour, ce que je trouve qui manque, c'est cette idée d'institution, c'est-à-dire l'idée que le sens n'est pas, qui est une idée typiquement moderne, l'idée que le sens ne nous précède pas toujours, dans, que ce soit dans la tradition, c'est pas ce que dit Latour, ou des scolas, mais par contre ils disent quand même que le sens nous précède dans au fond, un être qui serait Gaïa, qui serait une réalité sur laquelle, au fond, nous n'aurions pas d'autre prise que celle de la désolation, de la destruction. Je perçois parfois dans certaines critiques de la modernité, dans certaines critiques contemporaines, alors c'est le troisième terme, une tentative de recosmologiser la nature. Je m'excuse auprès de nos auditeurs pour cette terminologie un peu barbare, c'est-à-dire de revenir un peu à un cosmos d'ancien régime, si je puis dire, à l'idée que l'humanité occupe une place dans l'univers et que cette place, en quelque sorte, lui est donnée par nature et que... le mot nature devient équivoque, mais enfin qu'elle lui donnait par essence, et que, au fond, tout le mal viendrait de ce qu'elle a voulu sortir de sa place, en quelque sorte, c'est-à-dire prendre sur le réel des libertés ou des souverainetés qu'elle n'avait pas lieu de prendre. Or, précisément, il me semble que les excès de la modernité sont le revers de ce qui est son affirmation propre, c'est-à-dire l'idée qu'en fait, ne vaut que ce qui est institué, choisi, voulu, ne vaut que ce qui est en quelque sorte ouvert par rapport à nos propres destins. Et j'ai appelé ça l'échappée, au fond, c'est-à-dire cette propension, effectivement, des temps modernes, et même le concept de progrès à l'infini. Ça ne veut pas dire justement que c'est l'infini des quantitatifs, des biens qu'on va pouvoir domestiquer, apprivoiser, consommer. C'est pas l'infini quantitatif dont effectivement on peut dire la Terre crève aujourd'hui, de sa valorisation du moins. C'est un infini qui est justement une sorte d'ouverture que le monde, le concept de monde dit bien. C'est la transcendance qui reste, le monde pour les modernes. Je laisse de côté Dieu, c'est déjà assez... des concepts assez lourds que je évoque ici, mais c'est la transcendance qui reste au moderne, c'est-à-dire le fait que, au fond, le danger serait aussi plutôt contre le naturalisme moderne, cette tenue à distance du réel, de la nature, de recosmologiser le monde. Alors pour le dire de manière un tout petit peu plus concrète, et je m'arrête là, dans le diagnostic qui consiste à dire que la modernité, au fond, par son ontologie, par sa manière de distinguer entre les êtres, par son anthropocentrisme, par son anthropomorphisme, qui serait discutable, mais bon, est le grand responsable, cette thèse-là, à mon avis, passe à côté de la responsabilité réelle, c'est-à-dire que ce sont plutôt des puissances engendrées par la modernité, mais auxquelles elle ne se réduit pas, la modernité, qui auraient plutôt tendance, je dirais, aujourd'hui à reconstituer un cosmos. Et je prends comme exemple le capital, la technique, et une certaine figure de l'État, c'est-à-dire, et on le voit aujourd'hui dans la contemporanéité, le caractère contemporain entre cette critique écologique et puis des critiques identitaires, parfois elles se retrouvent d'ailleurs, dans certaines versions un peu extrêmes, mais parfois elles sont politiquement tout à fait distinctes, mais néanmoins elles sont contemporaines, c'est-à-dire cette idée qu'il faudrait en fait revenir on pourrait même plus dire tellement un rapport au monde, parce que le rapport ça suppose quand même une distance, mais une conscience de notre appartenance, que ce soit à Gaïa, mais aussi, pourquoi pas, après tout, à la tradition, à une certaine destinée historique, qui me paraît le plus discutable. Parce que, au fond, nous assistons aussi aujourd'hui, pas seulement au triomphe du naturalisme, de la séparation, encore une fois, de l'homme et de la nature, on assiste au moins autant à ce que j'ai appelé la recosmologisation du monde, c'est-à-dire à des tentations, des tentatives pour refaire communauté, groupe autour d'un principe qui sera un principe ordonnateur, le capital, le profit, la technique, l'innovation, qui n'est pas le progrès justement, ou l'État, on refait groupe autour de la nation. Et donc il m'a semblé qu'il y avait tout de même dans la leçon moderne un principe qui méritait qu'on s'en souvienne, c'est que l'engagement politique se fait d'abord pour le lointain, en quelque sorte, pour ce qui n'est pas simplement une règle d'appartenance. Et je pense qu'il y a dans une certaine tendance, je répète, pas la critique écologique en général, mais celle qui s'appuie sur ces grandes idées d'ontologie, au fond, ça veut dire que au fond, on pourrait choisir politiquement quelle est l'ontologie la plus compatible avec les urgences du présent. Il y a une équivoque dans le fait qu'on n'a pas tellement besoin d'ontologie en politique, on aurait plutôt besoin de métaphysique, c'est-à-dire on n'a pas tellement besoin d'avoir une considération, une définition de notre sphère d'appartenance, on aurait peut-être au moins autant besoin d'un avenir, de quelque chose qui est ouvert, j'oserais appeler une transcendance, et encore une fois je resterai au monde pour ne pas parler de Dieu, mais c'est-à-dire d'un projet qui évidemment tienne compte, car on ne peut plus faire autrement, de ce qui est notre fondamentale appartenance au monde et de la fragilité que cette appartenance a constituée ou a entraînée, ou que la fragilité que l'oubli de cette appartenance a entraînée pour la Terre, mais aussi de se souvenir qu'en réalité, si l'on veut rompre avec ces forces qui nous enferment finalement, qui finissent par reconstituer cette espèce de cosmos économique, la cage d'acier dont parlait Max Weber, ou ethnique, eh bien il fallait garder un principe d'échappée, et que celui-ci, c'est les modernes qui l'avaient pensé, justement dans ce qui fait que la modernité, c'est une des parts de sa dimension, est autocritique. Donc précisément, c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau, c'est un bon exemple de ce que la modernité a engendré, l'antidote, si je puis dire, à sa propre, son propre dévoiement capitalistique, l'antidote à Voltaire, en l'occurrence, c'est Rousseau. Et donc on ne peut pas simplement rester, je dirais, sur cette idée que l'humanité, je m'arrête là cette fois-ci, vivrait aujourd'hui. D'abord, l'humanité, c'est un grand sujet, c'est un sujet un peu trop gros pour assigner une responsabilité, donc le terme anthropocène me gêne aussi à ce titre-là, mais bon. Admettons, l'humanité vivrait aujourd'hui, en quelque sorte, les conséquences funestes de ses propres engagements passés. Ce qui est une idée qui, évidemment, est quand même un peu, enfin, pour le dire là encore plus simplement, bon, quand on est face à des gens qui sont déjà dans des systèmes de précarité, d'étouffement, qui se vivent déjà comme appartenant à des parties, étant des parties, pardon, d'un grand tout qui les gouverne, leur expliquer qu'ils sont victimes de leur choix ontologique me paraît un peu discutable. Et donc la tâche, et elle n'est pas aisée, je ne prétends d'ailleurs pas évidemment y parvenir facilement en tout cas, c'est de rouvrir des brèches dans ce qui aujourd'hui menace de s'imposer à nous comme des nouvelles formes de cosmos.
Merci Michael. Il y a une citation que vous donnez dans votre article qui me semble bien résumer ce propos, qui est une citation de Gilles Deleuze qui la prononce au moins à l'occasion de mai 68 et qui dit « Du possible, sinon j'étouffe ».
Bah, du possible sinon j'étouffe, c'est du monde plutôt que du cosmos, quoi, en gros. Alors c'est pas comme ça qu'il le dirait, il dirait de la vie plutôt, bon, on va pas chipoter si je finis, mais c'est effectivement cette idée que la, enfin c'est, bon, je sais pas si Deleuze n'aurait pas référé à la modernité, mais peu importe, c'est que dans un moment, lui c'était 68, il a aussi utilisé cette formule donc, quand il parle du cinéma néo-réaliste italien, la grande scène de Allemagne Zéro où un enfant Edmund se balade, si je puis dire, enfin erre plutôt d'ailleurs, dans les ruines de Berlin, là aussi c'est une image de la modernité, hein, son caractère négatif, et évidemment est étouffé littéralement par cette impossibilité de pratiquer le monde, en fait. Ce réel qui se présente à lui, Edmund, comme l'enfant, comme impraticable. Et d'après Deleuze, j'y étais pas, mais d'après Deleuze, 68 aurait été comme une grande bouffée de possible, dans un cosmos qui semblait absolument fermé sur lui-même. Et effectivement, de ce point de vue, c'est une très bonne formulation, je crois, de ce qui, alors avec le fait que nous vivons à l'ombre, si je puis dire, de la catastrophe, du sentiment que la catastrophe est l'alternative au progrès et c'est qu'elle nomme notre avenir, ben je dirais que face à cette forme de catastrophisme-là, il est bon de réinjecter du possible, et on ne peut pas le faire depuis autre chose, je crois, que nos capacités d'institution, qui néanmoins font encore, malgré tout, de l'humanité un sujet, mais pas au sens d'un sujet souverain, mais un sujet qui, par son imagination, est capable de réintroduire du possible dans le nécessaire.
Merci Michael. Je propose qu'on ouvre la discussion avec Camille Riquet. Je vous présente rapidement, vous êtes professeur de philosophie à l'Institut catholique de Paris. Vous avez dirigé chez nous plusieurs dossiers dans la revue Esprit, notamment Le problème technique en mars-avril 2017, L'argent, maître invisible à l'été 2019. Et je mentionne deux ouvrages, d'abord Philosophie de Peggy ou les mémoires d'un imbécile aux presses universitaires de France en 2017. Et puis très récemment, Métamorphose de Descartes, le secret de Sartre, chez Gallimard en 2022. Alors, Camille, j'ai envie de vous poser la même question qu'à Michael. Est-ce que on peut encore être moderne? Et si on reprend les distinctions que Mickaël a proposées ici, est-ce que vous êtes plutôt mondain ou plutôt terrestre?
Peut-être les deux. D'ailleurs, je m'aperçois qu'avec les différents dossiers que j'ai pu coordonner, l'argent, la technique, je m'attaquais au monstre dont parlait Mickaël, qui avait été engendré par la modalité, qui n'était pas forcément elle. Alors,
encore,
il resterait l'État. Alors, peut-on encore être moderne? Comme l'a dit aussi Mickaël, la critique est interne à la modernité, c'est elle-même qui sans cesse se remet en question, et tous les anti-modernes, il est assez aisé de le montrer, sont modernes dans la manière même dont ils rejettent la modernité, y compris Peggy, le savait-il, qui a tant critiqué la modernité. Alors, je pourrais évidemment m'inscrire dans sa déviation, d'ailleurs qui est celle de Latour, mais pour autant, notre âge dans la modernité n'étant pas la même, et le triomphe de la modernité n'étant pas aussi éclatant qu'à l'époque de Peggy, j'aurais tendance à défendre la modernité désormais qu'elle est en berne. J'aime les vaincus, là je reste péguiste, et peut-être que sans cette arrogance ou sans ce projet triomphant qui était le sien, il y a effectivement bien des choses qui restent encore à interroger et à récupérer de cette modernité qui, d'une certaine manière, malgré tout, arrive à son essoufflement. Donc, peut-on encore être moderne? Il y aurait plusieurs alternatives possibles. Il y aurait ceux qui prônent le postmodernisme. Nous avons un pas dans la modernité, un pas au dehors. C'est-à-dire que c'est une manière de dire que nous ne savons pas vers quoi nous tendons. Nous sommes entre deux mondes, un monde d'avant et un monde d'après. Mais déjà bien avant qu'on reprenne cette formule. Et puis, il y a l'hyper-moderne, qui consiste au fond à ne pas renoncer au projet humaniste, techniciste, mais à l'accélérer, persuader en quelque sorte qu'elle est capable, enfin que ce projet est capable de résoudre tous les problèmes que lui-même aurait engendrés. C'est peut-être le transhumanisme, etc. En tout cas, voilà, il y a plusieurs manières de se rapporter à cette modernité qui montre qu'on l'est encore. Qu'on le veuille ou non. Néanmoins, le terme est délicat. C'est la faute à Descartes. Désormais, en quelque sorte, on a tendance à lui donner comme lieu de naissance le XVIIe siècle, avec la science galiléo-cartésienne. Mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'il est bien difficile, en un sens, de dire à quel moment la modernité a commencé. C'est-à-dire que c'est vraiment, on va dire, une époque tout à fait particulière, en ce sens-là, qu'elle ne suit pas un événement fondateur particulier. On a bien tenté de faire un calendrier révolutionnaire, mais enfin, il n'a pas duré très longtemps. Mais le Christ, par exemple, c'est un événement qui peut couper en deux, avec un avant et un après. À la plupart des mondes, si je puis dire, font suite à un événement fondateur. Alors là, la vraie question à chaque fois qu'on se pose, c'est à quel moment, en quelque sorte, la modernité a été déclenchée. Pour Hegel, ça peut être avec la découverte du Nouveau Monde. Donc on situera ça au 15e siècle, d'autres c'est au 17e. Habermas, comme Mickaël l'a répété, c'est plutôt le siècle des Lumières. Dans l'article d'Anne Dugin, la littérature, en un sens, a connu sa modernité plutôt au 19e. Donc c'est tout à fait étonnant de voir que la chose est insaisissable, et qu'il me semble qu'on saura peut-être ce qu'est la modernité, en tout cas comment elle a commencé, quand elle finira. C'est la fin qui, si je puis dire, rejaillira sur le début pour lui donner la pompe d'un commencement. Hein. Ou peut-être qu'il y a plusieurs manières de l'être, et qu'il y aura plusieurs manières d'en finir avec elle. Si on devait définir la modernité, effectivement, c'est avec cette idée de rupture, rupture avec le passé, puisqu'il est tout à fait étonnant qu'en fait, les modernes n'ont cessé d'être, qu'il y avait déjà du temps d'Aristote, des modernes, que Charlemagne se disait moderne, et que tant d'autres. Mais c'est en un sens, un moment, une attitude où on a voulu vraiment rompre avec le passé, qu'on a considéré comme révolu. De telle sorte que, d'ailleurs, c'est un bain de jouvence, littéralement, puisque c'est à ce moment-là que de vieux que nous sommes, puisqu'il faut toujours rappeler que les plus jeunes sont les plus anciens. C'est Homère qui est jeune, et nous qui sommes des tarvenus, et si vieux. C'est qu'avec cette rupture, en quelque sorte, nous redevenons jeunes et la première pierre d'un chemin que nous avons à construire. Ou en quelque sorte, c'est désormais l'avenir qui sera le vrai commencement et non pas les anciens qui nous donnent en quelque sorte voilà, ce moment fondateur. Donc, cette jeunesse-là, et bien d'une certaine manière, c'est peut-être aussi ce que je garderai de la modernité. Ça peut paraître curieux. Ça veut dire qu'avec cette rupture-là, j'aurais tendance presque à inverser la citation de Descartes aujourd'hui. C'est qu'il ne faut pas oublier voilà, que nous avons été des hommes avant que de redevenir des enfants. Et que pour bien des cultures ou bien des domaines que nous avons cru révolus et qui, en quelque sorte, et là je rejoindrai l'article aussi de Olivier Mongin, enfin, en fait qui rejoint aussi une certaine attitude de Ricoeur, de ne pas renoncer à un certain universalisme, mais en l'envisageant de façon latérale, en récupérant en quelque sorte toutes ces humanités passées qui ont encore des ressources et des choses à nous dire, eh bien, nous sommes des enfants, c'est-à-dire que nous avons en quelque sorte à réapprendre. Et c'est peut-être aussi une chance, c'est-à-dire que c'est une chance d'avoir été moderne, par cette rupture qui nous a été faite, de telle sorte que nous pouvons désormais en quelque sorte nous réapproprier librement, et en cela je garderai en quelque sorte cette indétermination, ce principe de détachement aussi par rapport à ce passé qui pouvait être lourd et accablant, mais en un sens afin de pouvoir nous le réapproprier, de pouvoir réinsuffler un sens qui manque au projet, parce qu'on garde la modernité, mais on a perdu le projet. On a perdu cette croyance au progrès. On a désormais, le projet techniciste nous montre sa face sombre, et nous ne nous y reconnaissons pas. C'est-à-dire que peut-être là aussi est une des raisons de la crise de l'universalisme. C'est-à-dire que nous avons cessé de croire à ce projet, et en quelque sorte, nous quittons bateau les uns après les autres. C'est-à-dire que c'est une vraie question de savoir pourquoi, par exemple, les différentes minorités critiquent en même temps la modernité, c'est-à-dire choisissant désormais, non pas d'être complices de cette aventure universelle, mais désormais de dire qu'elles la subissent, qu'elles en sont victimes. C'est une manière, en quelque sorte, voilà, de se désolidariser du projet moderne tel qu'il était. Et c'est quand même ce à quoi on assiste désormais. En un sens, disons, j'ai été victime de cette aventure-là, j'acceptais d'en être le complice tant qu'elle était prometteuse pour tous. Et désormais, effectivement, il y a une tendance véritable à être anti-moderne, à se désolidariser de ce bateau, si je puis dire, qui fonce comme un brûlot vers la catastrophe. Donc, renouer avec un certain universalisme, non pas vers le commun qui est désormais le terme qui est préféré.
Je crois qu'Olivier Mongin parle d'un universalisme en partage.
Oui, en partage, enfin, voilà, latéral, qui nous permettrait en tant que moderne, en quelque sorte, de pouvoir être à la fois, bah, peut-être animiste, peut-être juif, chrétien, bref, de récupérer à soi, non pas une humanité perdue, ou de revenir à un temps révolu, qui, si je puis dire, il faut accepter qu'il soit révolu, mais de pouvoir être à la fois toutes ces humanités-là qui peuvent nous réapprendre cela même dont nous avons perdu le sens. C'est-à-dire qu'il y a bien des choses où nous sommes redevenus enfants. Et je ne dirais pas simplement des promesses non tenues, comme le disait Ricoeur et Olivier Mongin après lui, mais en un sens aussi ce que ces humanités-là ont à nous apprendre parce qu'ils le savent à la perfection. Ça veut dire que si je veux savoir ce qu'est la cité, je me tourne vers les Grecs. Si je veux savoir ce qu'est la justice, je me tourne vers le judaïsme. Je me tourne en fait vers ceux-là même qui l'ont porté en quelque sorte à une incandescence, à un sommet que nous n'avons pas atteint depuis. Donc là, je m'inscrirai un peu dans l'idée de Mounier, c'est-à-dire que, non pas refaire, mais même faire la Renaissance. C'est que j'ai, dans un autre livre, Nous ne savons plus croire, j'ai essayé de montrer qu'il y avait un parallélisme entre notre siècle, hein, le 21e et le 16e, mais d'une certaine manière, il s'agirait au fond, oui, de refaire, ou de faire même littéralement la Renaissance, et de réapprendre de toutes ces humanités-là qu'on avait cru caduques, révolues, définitivement passées. Donc c'est cette rupture-là que je critiquerai, pour ma part, cette rupture pour moi qui est fausse, c'est-à-dire que c'est peut-être la seule, l'humanité n'a rien commencé. Elle a juste voulu que le commencement coïncide avec l'origine. Ce qui est à mon avis une faute, de croire que, si je puis dire, tout pouvait être récupéré à partir d'une origine qui était la nôtre, la subjectivité par exemple, ou la raison, et que tout ne pouvait être sauvé des humanités passées que depuis cette raison-là. Mais en revanche, cette indétermination, ce redéploiement, cet horizon, si je puis dire, qui nous est offert, me semble effectivement à conserver. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avec cette catastrophe qui est suspendue comme une épée de Damoclès, c'est l'avenir même qui est bouché. Et c'est ce principe d'échappée dont parlait Michael qui me semble à préserver coûte que coûte.
Ce que vous dites me fait penser à une citation qu'on donne à la fin de l'introduction et que Hannah Arendt donne aussi à la fin de sa préface à La crise de la culture, je crois. Cette phrase de René Char, notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Donc on serait quelque part orphelin d'un certain enthousiasme pour la modernité, et il reste à écrire comment se l'approprier, le réinventer, pour rester jeune.
Oui, oui, héritage sans testament. Bah, d'ailleurs, c'était une des principales causes que Peggy expliquait pour montrer l'attitude moderne, c'était l'ingratitude. C'est-à-dire, en fait, ne pas revendiquer cet héritage, tuer le créancier, mais garder la créance. C'est ce que, en un sens, les modernes ont cessé de faire. Et même d'une certaine manière, non seulement on n'a pas acquitté nos dettes, mais en plus on a, comment dire, endetté nos enfants. Donc, enfin, avec ce désir d'infini quand même, on est allé très très loin. C'est-à-dire que non seulement voilà, on a apuré nos dettes, mais en plus voilà, on ne cesse d'augmenter la dette de nos enfants. Donc effectivement, c'est un projet qui à la fin ne pourra pas tenir. Ne serait-ce que parce qu'encore une fois, les sources sont finies et on ne peut pas réaliser un projet infini avec des ressources finies. C'était ça, en fait, la folie moderne, littéralement. Néanmoins, cet héritage est là. Alors, il y a bien des manières de l'envisager, mais il s'agira en quelque sorte voilà, de se le réapproprier, mais de façon aussi moderne. C'est vrai qu'il s'agira en aucun cas d'un retour en arrière. C'est-à-dire que la Renaissance, d'ailleurs, avait été peut-être parfois mal comprise de même, dans le sens où il s'agissait de revenir avant le Moyen-Âge dans cette humanité gréco-latine. En aucune manière, c'est-à-dire qu'il ne s'agit de ne pas renoncer au progrès accompli, de ne pas être ingrat nous-mêmes à l'égard des bienfaits tout de même que la civilisation moderne nous a donnés, mais en quelque sorte d'en tirer le meilleur parti. Et là, je rejoindrai tout de même Bruno Latour, peut-être d'atterrir à un certain moment pour pouvoir d'ailleurs faire une sorte d'inventaire de tout ce qui nous a été profitable pour éventuellement le relancer autrement avec des nouveaux horizons.
À moins que tu veuilles réagir.
Non, bah je suis en accord. Peut-être qu'on aura peut-être un désaccord avec Camille sur le statut qu'il faut accorder pas le statut d'ailleurs, mais les propositions sur la modernité de Latour. Mais enfin, comme elles sont un peu, j'ai vu que c'était une des questions, moi, que je me permets d'ailleurs. Elles sont parfois un peu contradictoires, puisque Latour, elles sont même d'ailleurs contradictoires, puisque Latour avait écrit un livre « Nous n'avons jamais été modernes », dont la thèse était, je la résume à grands traits, que, au fond, les grands partages, justement, sujet-objet, artefacts naturels, vivants, non-vivants, les grands partages dont la modernité s'est réclamée, n'ont jamais été autre chose qu'en fait un discours d'accompagnement de pratiques scientifiques qui les remettaient en cause, c'est-à-dire que nous vivions, nous aurions toujours vécu dans ce qu'il appelait, c'est d'ailleurs c'est la partie de sa théorie qui m'intéresse, des objets hybrides, qui sont à la fois naturels et artificiels, vivants et matériels, et que finalement la modernité aurait été, c'était ça à ce stade de sa réflexion, sa thèse, un grand récit, mais un grand récit en quelque sorte, bon, mensonger malgré tout, sur destiné à auto-promouvoir l'humanité et l'esprit dans sa capacité de rompre avec le réel matériel, bon, mais qui était au fond quelque chose d'assez idéologique. Et puis il y a eu, du fait même d'ailleurs de cette hypothèse anthropocène, de l'adoption de la terminologie Gaïa, et puis les effets tout à fait concrets et réels du réchauffement climatique. Ensuite, une deuxième phase, un peu plus, je dirais, prophétique, bon, qui consistait à expliquer que finalement, nous avons quand même été modernes, et nous le sommes tellement que c'est ce qui nous menace de mourir, bon, et de disparaître. Et donc là, alors ça, c'est évidemment le moment où les discours anti-moderne, mais c'est pas, ça ne concerne pas que la tour, hein, reprennent à la modernité sa tentation quand même, alors là, une sorte de grand récit universel. Hein, donc, dans un premier temps, la tour disait que Galilée n'était en rien une rupture historique, et puis dans un deuxième temps, Lovelock, donc, qui n'a peut-être pas la stature de Galilée, bon, celui qui a introduit l'hypothèse anthropocène, bon, en revanche, là, c'est un tournant historique. Il y a aussi, dans les discours sur la modernité, ou plutôt contre la modernité, le fait tout à fait indiscutable qu'on ne peut pas adhérer à notre présent aujourd'hui, la crise écologique, mais il n'y a pas qu'elle, hein, la crise sociale, la crise politique, font que, au fond, cette espèce d'autopromotion du présent qu'est la modernité ne peut pas être reprise comme telle. C'est pour ça, effectivement, pas de testament. Enfin, on ne va pas refaire Condorcet. Bon, ça paraît être à peu près acté. Et toutes les tentatives, au fond, de rejouer l'espace infini contre le monde clos sur le mode ancien, bah, ça donne à la fin, on passe de Fontenelle et la pluralité des étoiles et l'hypothèse que d'autres univers sont habités, donc peut-être que l'espace infini nous ouvre à des utopies concrètes, on passe de cela à SpaceX de, je ne sais plus comment il s'appelle, de Elon Musk, c'est-à-dire que finalement, bon, c'est un peu la caricature de la modernité dans son dévoiement technologique, c'est-à-dire... il ne s'agit plus d'aller s'inspirer d'autres formes de vie extraterrestres éventuelles, d'utopies que la science viendrait cautionner, mais il s'agit simplement d'aller faire ailleurs ce qui n'a pas marché ici et de reproduire sur Mars les conditions de la prédation qui ont détruit la Terre. Bon. Donc il y a évidemment une problématicité du caractère de la modernité, mais je dirais que dans la position de la tour, il faut quand même choisir entre le fait qu'il y aurait une espèce d'imposture du discours moderne, d'autopromotion de l'humanité, et puis ce qui a été le dernier, et ça n'est pas une question simplement liée à la tour, c'est aussi quelque chose qui est très présent dans le débat public, cette idée qu'en réalité, nous, encore une fois, on paierait aujourd'hui les choix, l'humanité paierait aujourd'hui les choix qui ont été opérés. Alors évidemment, là, les dates changent au 17e, au 18e. Alors je crois que la tour, c'est 1610, il prend, mais enfin, certains font remontrer à 1492. Mais c'est toujours cette idée, au fond, de dater la catastrophe, qui me paraît être très égarante. Il y a un moment où, au fond, l'humanité aurait en quelque sorte. Fait le choix de, bon, paradoxal d'ailleurs, le fait le choix de sa destinée, et nous en serions aujourd'hui au moment où nous prendrions conscience de cet égarement. Alors qu'évidemment, une crise, et Dieu sait que des crises, il y en a, une crise, qu'elle soit le moment où il faille faire retour vers le choix, le moment où ça a bifurqué, le moment où on a pris un chemin qui s'est avéré être une impasse, cela va de soi, mais c'est sur la question de savoir si, au fond, la modernité peut porter à elle seule le poids de notre propre destin. Et je le vois d'ailleurs dans la critique écologique, qui est plus réflexive que je n'ai présentée, hein, il y a des débats pour savoir d'abord est-ce qu'il faut dire anthropocène ou capitalocène, est-ce qu'on peut mettre sur le dos de l'humain, si je puis dire, dans sa généralité abstraite, tous les méfaits du productivisme, ou est-ce qu'il ne faut pas centrer même plutôt quand même sur le capitalisme, c'est-à-dire un certain type, je dirais, d'humanité. Donc ces débats, de toute façon, et qui sont nécessaires, qui ne sont pas seulement théoriques, parce qu'évidemment il s'agit aussi d'envisager à un moment des pistes de sortie, si je puis dire, et pas seulement de sortie de route, eh bien ces débats sont importants dans la manière dont on va penser, aborder l'origine de ce qui nous arrive. Bon, et c'est là où au fond il faut faire le plus attention, et moi-même j'essaie de faire attention, c'est-à-dire ne pas ni incriminer, ni au contraire d'ailleurs valoriser de manière totalement naïve ce qui serait une sorte d'origine qui déciderait par avance de ce que nous sommes. Et ce qui est parfois une tendance, je trouve, du dernier Latour. Voilà. Et cela étant, c'est pas une discussion spécialement sur lui, mais sur des effets très réels de cette pensée, de cette représentation du monde, qui a d'ailleurs sa propre puissance, hein, mais qui menace quand même de nous inscrire, c'est l'hypothèse anthropocène elle-même, dans une forme paradoxale d'ailleurs de triomphe à la Pyrrhus, enfin de narcissisme humain. C'est l'humanité a changé le temps géologique, mais finalement, cette puissance prométhéenne se retournerait complètement contre elle, puisqu'aujourd'hui nous serions condamnés à subir ce que nous avons nous-mêmes, enfin encore une fois, il faudra interroger ce que nous avons nous-mêmes initié.
Oui, non, je me l'accorde. Je pense que la véritable difficulté et la tentation, c'est de vouloir à tout prix trouver un moment fondateur de la modalité pour s'y retourner et la rendre coupable de tous les maux dont nous souffrons. Encore une fois, le monde moderne n'a pas de père. Alors après, rétrospectivement, on s'en invente un, Descartes ou tant d'autres qu'on va décapiter ou dont on va accabler, voilà, qu'on va accabler de toutes les fautes qu'il a pu commettre. Pour cette raison-là, il me semble que on ne peut pas, en quelque sorte, se retourner contre le projet moderne en culpabilisant l'homme, parce qu'au fond, il y va aussi de ça, de cette aventure qui a été la nôtre et qui nous mène droit au mur et qui a sacrifié tant de choses autour d'elle, voilà, pour un humanisme très inquiétant. Alors, sur la question du capitalocène ou de l'anthropocène, ça c'est une autre question qui est tout de même assez embarrassante. Est-ce qu'on peut séparer le capitalisme de la modernité ? Il y a un mot de Peggy qui était assez amusant, c'est-à-dire que les mêmes qui accablent, critiquent le capitalisme, le monde capitaliste, sont les mêmes aussi qui encensent pourtant le même monde, le monde moderne. C'est-à-dire que chaque fois, c'est l'une des faces qu'on voudrait sans l'autre, qui en est pourtant le complément indispensable. Alors, probablement que non, mais c'est tout de même de façon conjointe qu'il a fallu penser la naissance du capitalisme et la naissance d'un projet qui tout de même devait un certain capital de départ pour pouvoir se réaliser. Marx faisait lui naître la modernité avec cet afflux massif d'or et d'argent venu du continent américain et qui tout d'un coup a fait monter l'inflation, rendu les propriétaires terriens pauvres, bref, qui a mis en faillite la féodalité et qui a rendu en un sens possible d'autres comportements. Donc, et en un sens, donc, la naissance du capitalisme. Et je ne pense pas qu'on puisse dissocier les deux dans le sens où il faut bien un monde d'argent, un monde où, en un sens, on investit un capital complètement indéterminé pour faire des projets, si je puis dire, qui sont eux-mêmes indéterminés. C'est-à-dire que tout ceci, ce sont autant de facettes qui doivent être pensées ensemble. Et qu'on ne peut pas dissocier. Donc je resterai malgré tout encore critique de la modernité. En tout cas, Peggy me l'a appris, peut-être un peu trop, dans le sens où les deux restent encore difficilement dissociables.
Alors peut-être, avant d'ouvrir la discussion, une dernière question que je vous adresse à tous les deux. En fait, en vous lisant, j'étais frappé d'une certaine... communauté de pensée, au sens où à la clôture, qu'elle soit du capital, de la technique ou d'un état autoritaire, vous opposez un principe d'ouverture. Vous avez parlé tout à l'heure d'une crise de l'infini. Dans votre livre sur Peggy, vous parlez d'un salut universel face au règne de l'argent. Alors, du coup, j'ai une question qui n'est plus sur la distinction entre modernité et capitalisme, mais entre modernité et sécularisation. Dans quelle mesure la sécularisation, la laïcisation d'un certain nombre de notions et d'institutions est constitutive de la modernité ?
Peut-être
une question. Non, mais du coup, ça pose une question sur le principe que vous voyez quand même fondamental dans la modernité.
Oui, alors ça pose la question de savoir si un infini, une ouverture, un principe d'ouverture autre que strictement théologique est pensable. Bon. Alors je crois qu'il faut distinguer cette question à laquelle moi je répondrais positivement. Oui, il est pensable puisqu'il a été pensé. Par exemple, sous ce thème du monde, le cosmopolitisme, c'est pas le salut. La démocratie, ce n'est pas... la démocratie moderne, justement, ce n'est pas... dirais-je, la version simplement sécularisée d'un idéal théologique. Et les droits de l'homme ne sont pas simplement la sécularisation des droits que Dieu nous a donnés. Donc on peut le faire, mais évidemment ça a été fait, je veux dire, penser quelque chose comme un horizon qui ne reçoive pas une garantie dans une personne théologique, bon. Cela étant, ça a toujours été fait dans un rapport, évidemment, avec la modernité. C'est quand même c'est prétendu tel en Occident, dans un rapport avec le judaïsme et surtout le christianisme. Autrement dit, les emprunts que la modernité a fait à la tradition religieuse sont tout à fait certaines, à commencer d'ailleurs par cette valorisation de l'infini. Simplement, il faut, mais ça demanderait beaucoup de développement, mais la meilleure source pour moi, ça reste Blumenberg. Il faut s'interroger sur ce qu'on dit quand on dit, enfin, sur ce que la modernité fait quand elle utilise un attribut, par exemple, et qu'elle le transfère. C'est trop simple de dire, elle le transfère, Dieu est infini, à l'humanité, le progrès est infini. Dans ce transfert se joue aussi une distinction de sens. Mais c'est pas, et par exemple, quand on dit, quand les modernes disent un progrès à l'infini, ça n'a pas le caractère que l'humanité est prise dans une histoire dont le progrès est à l'infini, ça n'a pas, quand on regarde un peu de près les choses, ça n'a pas le sens que lui donnent trop les antimodernes d'hier et d'aujourd'hui, le sens très prométhéen, parce que c'est précisément l'infini, c'est ce qui est sans cesse remis à plus tard dans son accomplissement. Donc, en passant de Dieu, si on peut dire, à l'humanité, ou à l'espace d'abord, puis ensuite au progrès, le terme infini, finalement, il ne change pas de sens, mais son sens est quand même modifié. C'est-à-dire, l'idée du progrès, c'est pas d'abord l'idée, ça n'est pas l'idée de la réalisation accomplie de l'histoire. C'est le fait qu'il faut se consoler, en fait. Pour moi, le progrès, c'est Kant qui disait ça. Le progrès, c'est un concept de la consolation. Et de quoi ça nous a consolé, l'idée que nous étions en éternelle marche vers un avenir ouvert, d'avoir perdu ce cosmos fermé, qui a aussi une dimension théologique dans lequel chacun a sa place, dans lequel, au fond, l'inertie est prise comme une valeur, et dans lequel nous serions d'emblée tout ce que nous pouvons être. Et donc, il a fallu quand même, car c'est ce décentrement immense qu'a été la modernité, ça, on l'a pas dit, c'est vrai, mais c'est le moment où la blessure narcissique de l'humanité, la Terre, on se rend compte qu'elle n'est qu'un astre parmi d'autres, nous ne sommes pas au centre de l'univers, c'est quand même né de cela. C'est quand même, si on admet ce qui est quand même vraisemblable d'associer modernité et nouvelle cosmologie galiléenne ou copernicienne, on est obligé de commencer par dire que la modernité n'est pas née sur un acte triomphateur, mais sur la conscience d'une finitude. Et l'infini valorisé par l'ouverture valorisée ou l'horizon valorisé par la modernité sont d'abord des répliques à tout ce qui, et ça pour le coup ça vaut encore aujourd'hui, nous menace d'être maintenu à notre place, de ne pas pouvoir en sortir, d'être condamné par sa position sociale, son statut politique, son statut genré, c'est-à-dire tous ces discours qui visent en fait à refaire ordre et fermeture et clôture, et là... On pourrait aussi penser, Camille le dira sans doute à Bergson, à tout ce qui nous menace, au fond, de prendre notre présent comme un destin. Mais faut-il inventer des nouveaux dieux pour ça? Je ne sais pas.
Ce ne sera pas la dernière question à laquelle je répondrai. Oui, la question de la sécularisation est bien complexe, même de savoir comment comprendre le rapport entre la modernité et les temps qui... le précède, hein. Est-ce que c'est sécularisation, laïcisation, il y a plein de mots, et qu'il est bien difficile effectivement de rendre pertinent. Blumenberg l'a montré d'ailleurs à quel point les notions sont vagues, avec un sens difficilement saisissable. Il les a contestées, puisque dire qu'il y a sécularisation, c'est montrer cet emprunt permanent, et donc contester la légitimité des temps modernes, pour reprendre le titre même de l'ouvrage. On peut tout de même en définir un sens particulier, encore que la chose restera toujours un peu indéterminée. Cela vient de la Révolution française, pour nous, lorsqu'il a été décidé, en quelque sorte, de confisquer les biens de l'Église pour les mettre à la disposition de la nation. Donc, de faire fondre les cloches d'Église pour, en quelque sorte, s'acquitter de la dette de la nation qui était considérable. Et sur ce modèle-là, on a considéré qu'il s'agissait d'un sens de reprendre pour nous, dans le siècle, tous ces biens qui avaient été confisqués par l'Église. Donc aussi bien ces valeurs, ou ces notions, ces principes de justice, de bien, de vérité, etc., qu'on a sécularisés. Mais dans cette manière de parler, on ne saura jamais, en un sens, à qui cela appartenait d'abord. C'est-à-dire que les modernes diront, mais c'est quelque chose que vous avez sacralisé, que vous avez en un sens confisqué, mais qui nous appartient en droit. Donc là-dessus, la chose reste complètement indéterminée et on pourra, pour cette raison-là, ne pas distribuer les torts entre les uns et les autres. Donc le terme en un sens, me semble avoir encore un sens, parce que je ne veux pas que la moralité ne soit véritablement partie de rien, enfin que ça, ce serait quand même un mythe fondateur qui me semble aberrant. Même Blumenberg montre à quel point la moralité essaie de résoudre un problème qui était celui du Moyen-Âge et qui même qui était hérité d'avant, c'est-à-dire qu'elle ne vient pas de nulle part, elle répond à un problème, qui était d'ailleurs la manière de pouvoir gérer ce monde et de faire qu'il ne soit pas mauvais. Bon. Et là, je rejoins Michael, quand Blumenberg dit... Le christianisme s'était encore arrangé avec le cosmos grec, et donc en un sens avait fait cohabiter en quelque sorte voilà, le monde des Grecs avec leur propre héritage chrétien, et que désormais avec un monde infini, toutes les choses devaient voler en éclats, et on devait repenser le monde tout à fait autrement. Donc on peut tout à fait articuler ces emprunts, cette manière en quelque sorte de, pour la modernité de poursuivre, de prolonger, de continuer malgré tout, en dépit de toutes les discontinuités qu'elle affiche, tout en lui réservant une certaine singularité. Et peut-être qu'aujourd'hui, à l'heure en quelque sorte où il n'est pas bon d'être moderne, l'intérêt qu'il y a, ce serait de garder, de s'intéresser, de se pencher sur ce qu'il y avait de meilleur dans la modernité. Je reste encore là-dessus péguiste, c'est que il faut être vaincu, il faut en quelque sorte enlever l'orgueil, la fierté, le triomphe parfois de tel ou tel camp pour s'apercevoir de ce qu'il y a de meilleur en eux. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est peut-être aujourd'hui qu'il est tout à fait intéressant de l'être, quand plus personne ne l'était, si je puis dire.
Alors, je vous propose qu'on essaye de prendre quelques questions du public. Je crois qu'il y en a déjà pas mal. Alors, ne pas confondre modernité et progrès. Tu veux dire quelque chose sur modernité et progrès ?
Il ne faut pas les confondre, mais il faut bien les articuler.
Disons qu'il ne faut surtout pas confondre progrès et innovation, ou progrès et progressisme, je dirais, parce que le thème du progrès, il est présent, je dirais, là aussi, si on prend les niveaux, bon, qui, celui qui m'intéresse le plus, mais cosmologique, c'est-à-dire la représentation de l'espace, à partir du moment où l'espace est représenté comme infini, ce qui est le propre de la science moderne. Eh bien, l'idée qu'il n'y a pas, enfin, que la... Ce qui vaut pour l'espace vaut aussi pour le temps, en quelque sorte, que cette ouverture doit s'appliquer aux deux dimensions de notre expérience, s'impose. Alors évidemment, le progrès, ensuite, on peut le penser de diverses manières, soit comme une automaticité dans le mieux, bon, ce qui serait peut-être la tendance et encore de Condorcet, et puis la perfectibilité de Rousseau, qui est d'emblée l'idée que nous avons dans notre nature un principe d'échappement à la nature. Mais que ce principe d'échappement à la nature, qu'on peut appeler aussi liberté, mais là, lui, le nomme Rousseau perfectibilité, ne nous dit pas encore que ce destin du progrès ne soit pas la catastrophe, justement. C'est-à-dire qu'entre l'idée d'une ouverture de la temporalité, du fait que nous ne soyons pas assignés ni à une place, ni à une fonction, et le fait que nous allons aller toujours vers le mieux, il y a une différence qui permet effectivement de distinguer modernité et progrès, de faire du progressisme une des manière d'interpréter cette ouverture du temps. Manière qui, d'ailleurs, ne sera vraie, bon, là, on ne va pas faire d'histoire des idées, mais surtout vraie au XIXe siècle, hein, quand il va y avoir la rencontre entre le progressisme issu des Lumières et l'évolutionnisme darwinien, qui effectivement donnera des versions tout à fait funestes, pour le coup, de cette conception selon laquelle le progrès serait notre nouvelle fatalité, en quelque sorte. Mais idée qui continue à exister aujourd'hui, parce qu'il est évident, on l'a dans le dossier ou même dans l'intervention, j'ai pas voulu faire le panégyrique de la modernité. Si modernité veut dire l'innovation comme solution, le problem solving, ou l'idée que la technique est seule en mesure de résoudre les problèmes qu'elle a elle-même causés, alors dans ce cas-là, nous aurions toute raison de ne plus être moderne. Mais je ne crois pas que ça soit là le sens de la modernité, plutôt le sens d'une modernité fatiguée, déjà un peu tardive, hein, qui consiste à vouloir, encore une fois d'ailleurs, recosmologiser, c'est-à-dire retrouver une sorte d'automaticité, de machinerie, de fermeture, là où le mouvement initial était celui d'une ouverture. Donc le progrès est un concept éminemment contesté, c'est-à-dire dans lequel on ne peut pas simplement inscrire un sens de l'histoire auquel aujourd'hui, effectivement, les gens ne croient plus, sauf peut-être à rejouer les illusions du progressisme dans le catastrophisme, puisque finalement, le catastrophisme est une manière symétrique au progressisme de nommer le temps, hein, de nommer l'avenir. Bon, dans un cas, évidemment, comme une sorte d'épanouissement radieux, dans l'autre, comme une fin définitive. Mais dans tous les cas de figure, dans les deux cas de figure, je veux dire, et compte non tenu de ce qui est véritablement catastrophique dans le réel, hein, mais là je parle au niveau des représentations de l'avenir, dans les deux cas, progressisme et catastrophisme, au fond, on consacre le triomphe du destin sur toutes les prises que nous avons sur lui. Bon, et de ce point de vue-là, c'est réconfortant pour... réconfortant, je ne sais pas, mais c'est l'argument paresseux qui risque d'être triomphateur ici, dans ce cadre.
Oui, je n'irai pas de critiquer d'un bloc l'idée de progrès, mais en quelque sorte, à l'intérieur même de cette idée, de voir ce qu'elle avait de positive et la manière dont elle a pu être pervertie ou détournée de son véritable sens. Donc il y a effectivement l'idée de perfectibilité, enfin, de cette possibilité quand même de progresser moralement, mais qui est indexée à une véritable liberté. Et il y a son envers, qui est l'automaticité, c'est-à-dire le contraire même. C'est-à-dire que la chose se fait automatiquement, que nous ne voulions pas, même quand nous dormons. Et là, on rejoint la critique que pouvait faire Peggy de l'idée de progrès, qui disait que c'était au fond l'idée sous-jacente d'une théorie de caisse d'épargne, où en un sens, on accumule sans cesse de l'argent, même quand on dort, système adipeux, où les choses s'engraissent toujours sans que la chose, précisément, soit indexée à une liberté quelconque. Donc on voit la manière dont tout se retourne entre... cette idée de progrès, à mon avis, qu'on ne doit pas non plus lâcher. Sinon, quoi ? L'histoire piétine ou elle régresse ? Donc, il faut savoir aussi face à quoi on veut se confronter. Mais en revanche, cette idée-là d'un progrès qui voudrait que nous en savons, que nous savons mieux que les anciens parce que nous en savons plus long, est absolument absurde. Et là, ça fait notre fierté un peu dérisoire. C'est la fameuse phrase de Sartre dans Les Mots. Le progrès, ce long chemin ardu qui mène jusqu'à moi. Donc c'est cette idée-là dont nous ne voulons pas, mais tout en conservant finalement l'idée même de progresser et d'échapper en quelque sorte à un destin qui nous céderait.
Merci. Il y a également une question sur la tradition qui... crise de tradition, crise d'autorité. Quel rôle vous semble jouer la tradition dans... la modernité, si elle se définit d'abord comme une rupture avec les traditions, néanmoins, elle continue d'exister dans la modernité. Donc, comment est-ce que vous répondriez à cette question de la tradition ?
C'est une question difficile, parce qu'effectivement, la modernité, c'est d'abord quand même une rupture avec la tradition. La querelle des anciens et des modernes au XVIIe siècle... le montre. Il ne s'agissait pas de prendre en modèle les anciens, qu'on pouvait tout à fait envisager des canons esthétiques tout à fait nouveaux. Et si on serait invité aujourd'hui éventuellement à revenir à des traditions, ce ne serait pas du tout au sens qui avait été rejeté par la modernité. Une tradition vivante qui est capable en quelque sorte de renouvellement, de possibilités inattendu. Donc en aucun cas, en quelque sorte, voilà, une tradition sclérosée, morte, qu'il s'agirait d'imiter sans y mettre un peu d'indétermination, en quelque sorte. Donc moi, j'aurais tendance, en quelque sorte, à vouloir les articuler, d'ailleurs, comme on le fait toujours, c'est ça qui est terrible. Hein. La publicité a compris qu'une bonne publicité, c'était une manière de faire de la tradition du moderne. Donc, mettre John Lennon et la nouvelle voiture qui arrive, vous voyez, et tout ça en noir et blanc. Donc il y a toujours cette manière de faire, mais qui n'est pas que publicitaire. Voilà. Il y a une tradition qui doit nous rattacher malgré tout à ce qui nous précède, et qui nous permet malgré tout aussi de mieux nous comprendre nous-mêmes.
Je ne sais pas, je ne veux pas, peut-être pas répondre à chaque fois, sinon il y a beaucoup de questions qui passeront, mais je dirais il y a un article, plus ou moins plus précisément, un entretien dans le dossier, c'est une occasion aussi de parler de lui un peu, du dossier, avec Olivier Roy, sur cette, un entretien donc, que nous a accordé Olivier Roy, qui dans son dernier livre s'interroge sur justement ce qui est présenté souvent comme un retour à l'identitaire, et en particulier ici au traditionalisme. La tradition, ça a aussi cette dimension, disons, d'identité, bon, et où il note deux choses qui sont très justes. D'abord que la modernité pour nous est déjà quelque part traditionnelle, et nous sommes de vieux modernes, hein, là, Camille le disait tout à l'heure, autrement dit, on ne peut plus évidemment rejouer la partition à l'identique de la rupture avec le passé, puisque notre passé est constitué pour une bonne part de cette rupture elle-même. Et Olivier Roy montre aussi surtout que, et c'est encore plus important, que chez les néo-tradis, comme on dit, c'est-à-dire y compris les identitaires religieux, pour ce qui nous concerne, qu'ils soient d'ailleurs catholiques, pour ce qui nous concerne plutôt catholiques, ou plutôt musulmans, en réalité, ce sont des hyper-modernes qui s'ignorent. C'est-à-dire que le traditionnalisme prémoderne, l'ancien régime, ou le retour à quelque chose de prémoderne, c'est d'ailleurs ce qui fait aussi son caractère à la fois illusoire et dangereux, prétendre y revenir. En fait, on ne revient pas en arrière de la modernité, sauf à avoir déjà quand même accueilli un certain nombre de ses préceptes. Donc, pour le dire plus clairement, les néo-traditionalistes ou les intégristes, ou si on prend que le champ religieux, ils ne parlent pas que d'eux, mais ressemblent beaucoup dans leur mode de vie, leur manière de penser, leur manière d'agir et d'utiliser les nouveaux médias, la technologie, ils ressemblent beaucoup aux post-modernes qu'ils dénoncent, en particulier parce qu'ils se vouent tous au règne des valeurs. Bon, et ça, c'est aussi une dimension, il est vrai, de la modernité, pas la meilleure, d'avoir, si j'ose dire, valorisé le concept de valeur, et d'en avoir fait l'alpha et l'oméga de la pensée. Mais les valeurs, au fond, c'est ce qui vient quand on ne croit plus en grand-chose. Hein. C'est-à-dire, quand on entend, même dans la jeune génération, des gens très identitaires du point de vue religieux se référer sans arrêt à leurs valeurs, la valeur, comme son nom l'indique, ça a une origine dans l'économie, un pied dans l'économie, l'autre dans la biologie. C'est-à-dire, c'est le fait d'une évaluation. Et de cette origine, disons, cette double origine, surtout du côté de l'économie, c'est pas quelque chose qui, à mon avis, revient à la tradition, c'est-à-dire où justement on ne posait pas la question des valeurs. Il y avait là plutôt la question des principes qui gouvernaient nos vies, enfin qui gouvernaient la vie dans les sociétés dites traditionnelles. Aujourd'hui, la modernité a tout de même produit des effets, qui sont d'ailleurs parfois des effets là tout à fait négatifs, c'est que même quand on se rapporte à la tradition de manière très identitaire, on le fait sur le mode des valeurs, c'est-à-dire sur quelque chose qui est quand même assez relativiste. Hein. J'ai mes valeurs, tu as les tiennes, et finalement on est dans le grand conflit des valeurs. Max Weber le disait déjà, c'est la guerre des dieux, hein, la modernité, mais une guerre qui peut être très violente, hyper violente, d'autant plus violente qu'elle est hyper moderne d'ailleurs, qu'elle passe par les relais du virtuel. Mais cela étant, on reste moderne d'une certaine manière, en se référant à une identité comme à une valeur, et plus comme à un principe qui, au fond, serait tellement évident qu'il ne serait plus mis en danger par les valeurs des autres. Parce que le problème des valeurs, c'est qu'évidemment, elles mènent à la guerre, ou en tout cas au conflit, parce qu'elles sont toujours menacées par les valeurs ou les évaluations, donc en réalité, des autres.
Je vois une question sur une dialectique entre conservatisme des valeurs et progressisme des structures sociales. Et une suggestion sur l'idée que la fin de l'universalisme européen sera le début de l'universel. Camille Ricker a un petit peu parlé de cette idée d'universalisme latéral. Il a un peu répondu sur la question des valeurs.
C'est le début, c'est l'idée peut-être que l'universel et l'universalisme, ce n'est pas la même chose. L'universalisme, ce serait, dans cette citation, c'est une citation de Souleyman Bachir Diagne, l'universaliste, ce serait l'universel qui prétend s'incarner, en quelque sorte. Et effectivement, il a, et c'est tout à fait évident, prétendu s'incarner en Europe à une certaine époque, qui engage aussi la modernité, l'européocentrisme, l'idée qu'il était, en quelque sorte, ce qui est contradictoire, l'apanage. L'universalisme, c'est l'apanage de l'homme blanc, mûr, mature, pardon, majeur. Et ce qui est intéressant avec l'universel, c'est qu'il est une puissance corrosive, y compris pour l'universalisme. C'est-à-dire, on le voit bien, c'est ce qu'avait si bien montré d'ailleurs Lefort pour les droits de l'homme, malgré tous les défauts que les déclarations des droits de l'homme ont, en particulier celle de nommer l'universel ou de le présupposer comme étant plutôt mâle, capitaliste, blanc et occidental ou européen, eh bien, il y a une dynamique du discours de l'universel qui vient en quelque sorte ronger ou dissoudre ces tentatives de se fermer en universalisme. Et donc, effectivement, je serais assez d'accord que l'idée selon laquelle le vrai universel, enfin le vrai, l'universel le plus intéressant, c'est-à-dire l'universel critique, se trouve aujourd'hui ailleurs que dans les discours universalistes occidentaux, me paraît être vrai, mais et me paraît être juste, je veux dire, descriptivement. Encore faut-il en conclure quand même malgré tout qu'il y avait dans cette prétention à l'universel, et peu importe où elle est née, à quelle date et en quel lieu, néanmoins quelque chose qui mérite encore d'être rappelé. C'est-à-dire que c'est là où il faut peut-être distinguer les origines des commencements. Nos origines, nous n'avons pas à les valoriser. Hein. Nous sommes issus ici, je veux dire, en Europe, de cette civilisation. Il n'y a pas de raison d'en être particulièrement fier. Mais ce commencement-là, qui a eu lieu pour des raisons parfaitement... à la fois historiquement explicable et en même temps contingente, ce début, ce commencement-là, on peut encore s'en revendiquer, me semble-t-il, aujourd'hui.
Oui, on faudrait plutôt lutter, je donnerais raison effectivement, enfin en tout cas je l'entends, il faudrait lutter contre l'universalisme qu'on dit abstrait, qui cache en fait un particularisme, c'est la critique de l'idéologie, mais il ne faut pas non plus pour autant y renoncer au profit d'une pluralité de communautés qui chacun aurait ses propres valeurs et qu'il faudrait au fond tolérer. C'est qu'au fond, il faut aussi assumer que il y a plusieurs universalismes et que nous entrelaçons les uns les autres pour pouvoir créer une sorte d'universalisme concret, mais pluriel. Et que par exemple, le logos, c'est pas parce qu'il est grec qu'il cesse d'être universel. Néanmoins, les Grecs nous ont donné le logos, comme on peut tout à fait imaginer que d'autres peuples, d'autres humanités nous ont donné quelque chose qui aussi peut-être nous appartient, qui relève de l'universel, et qui n'est pas la marque d'une particularité parce qu'elle serait en quelque sorte issue de tel ou tel endroit du monde. Donc c'est plutôt à composer ces différents universalismes-là. Bon, là, encore une fois, c'était une des leçons de Peggy, mais la justice... Il fallait en quelque sorte que Bernard Lazare, même moderne, même se croyant moderne, se leva pour dire que le capitaine Dreyfus était innocent. Et c'est là, il disait, c'était tout le fruit exquis du judaïsme, le prophète qui s'est levé pour nous rappeler ce qu'était, même pour les Français, pour les Républicains, ce qu'était la justice elle-même, la justice absolue. Donc chacun est porteur d'un certain universalisme et qui se conjugue, s'articule... là où ils sont les plus grands, là où ils se montrent dans sous leurs meilleurs aspects. Donc voilà, ils ne se combattent pas, il s'agira en quelque sorte de les articuler de façon concrète et plurielle.
Alors, il nous reste peut-être quelques minutes pour une dernière question. Les mondes capitalistes et marxistes sont eus des conséquences écologiques majeures, ce n'est donc pas le capitalisme qu'il faut attaquer, mais plutôt le matérialisme qui leur est commun, ou productivisme peut-être.
Alors, il y a dans cette question, cette suggestion, quelque chose qui touche vraiment au problème de fond, c'est-à-dire à la raison, je crois, pour laquelle on a une certaine tendance, bon, enfin, il me semble en tout cas, à renommer modernité l'adversaire, en quelque sorte, plutôt que capitaliste. Et la raison historique, en tout cas, c'est qu'effectivement, la tentative... alors que certains diraient apparente d'alternative au capitalisme, c'est-à-dire le communisme d'État, a été aussi productiviste que le capitalisme, en tout cas aussi industriel. Moins productiviste finalement, puisqu'il a moins produit, puisqu'il a perdu, mais en tout cas aussi industriel et donc aussi négatif, au moins aussi négatif d'ailleurs pour la planète. Alors moi je suis un peu gêné dans cette manière de voir les choses, parce qu'alors du coup on en est amené à dire le genre c'est la modernité, puis les espèces c'est ou le capitalisme, ou le marxisme, ou disons en tout cas le communisme, mais finalement il vaut mieux s'attaquer au genre qu'aux espèces. Bon. Alors premièrement, une des deux espèces ayant disparu, il en reste quand même une deuxième. Et moi, je pense que le capitalisme n'est pas une espèce de la modernité, en fait. Il en est certes, évidemment, je ne sais même pas si c'est le fruit, on pourrait dire, peut-être il en est même l'occasion. Certains qui font remonter à 1492 le capitalisme, et un peu avant la modernité. Bon, cela étant, il n'y a pas, me semble-t-il, dans le capitalisme qu'il y a dans la modernité, c'est-à-dire le principe d'une autocritique, pour le dire simplement, et là, on l'a vérifié depuis qu'il n'y a plus de marxisme, justement. C'est-à-dire que depuis qu'il n'y a plus de critique extérieure, le capitalisme se révèle dans ce qui est son essence, d'ailleurs, et pourquoi pas, c'est-à-dire la maximisation du profit, quel qu'en soit le prix pour la terre. Alors, ce qui me gênerait un peu dans cette idée que finalement, il faudrait affecter, parce que c'est ça qui est à l'arrière-plan, à la technique, quelque chose qui est commune, qui a été commune au communisme et au capitalisme, une sorte d'indépendance par rapport au champ économique, c'est souvent un discours qui d'une certaine manière, empêche l'action, parce que finalement, comme on serait encore, nous serions tous... dépendant d'une espèce de à la Heidegger on dirait un âge de l'être, enfin nous ne pourrions plus agir. Donc le je suis tout à fait d'accord pour dire que l'une des raisons fondamentales de l'échec, et même de l'échec désastreux et criminel du communisme, a été de redupliquer le productivisme capitaliste, pour autant aujourd'hui, il y a les moyens d'aborder ce productivisme sans se référer nécessairement, je dirais, à la modernité comme à la reine de cette, comme à la celle qui est l'origine fondamentale de cet errement.
Il me reste à remercier Camille Riquier, Michael Fessel, à toutes les personnes qui étaient présentes pour cette discussion, remercier Thomas Le Goff qui nous a aidés avec vos questions, et je vous rappelle Tous Anti-Modernes, notre numéro de janvier-février 2023.
Merci.
Esprit,
comprendre, revue esprit, entendre le monde qui vient.